j'invite Nadia Ayala Kisukidi à prendre la parole. Elle est philosophe et enseignante à Paris 8.
Bonjour. Dans le cadre de cette réflexion sur l'étranger, je voulais un peu vous faire part d'un ensemble de travaux dans lesquels j'étais amenée justement à reposer cette notion, de travaux qui commencent, et de travaux qui sont liés à une réflexion précise sur les difficultés, en tout cas les types de conflits en fait, qui sont nés en République démocratique du Congo, juste après l'opération turquoise, donc, opération menée par l'armée française pour exfiltrer un ensemble de génocidaires Hutus qui ont commis donc le génocide des Tutsis au Rwanda dans l'est du Congo. Et donc l'enjeu pour moi, dans toute cette réflexion, et vous verrez comment je refuse finalement de remobiliser la catégorie d'étrangers et pourquoi elle me paraît problématique, une des réflexions pour moi consiste précisément à essayer de sortir d'une réflexion sur les conflits, une réflexion sur la guerre, une réflexion sur les altérités souffrantes hors d'Europe, en justement mobilisant toute une espèce de, un ensemble de syntagmes renvoyant à ces vies qui comptent et à ces vies qui ne comptent pas, c'est-à-dire essayer de penser un ensemble de questions politiques hors d'une réflexion sur les représentations en fait. Et c'est là, c'est dans ce cadre précis en fait que mon travail commence à se reconfigurer et s'inscrit aujourd'hui. Et un des enjeux, précisément, c'était de m'interroger sur le type de langage que mobilisait la philosophie pour traiter de ce genre de situation politique. Comment, quel type de langage se mobilisait, en fait? Comment, justement, porter au discours philosophique un ensemble de situations, précisément liées des soubresauts, finalement, d'une situation génocidaire qui s'est transformée en multiples conflits armés et qui a aussi produit ce qu'on appelle, en termes juridiques, des crimes contre l'humanité? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de décevant, finalement, dans le discours philosophique qui finalement n'est capable de réduire ces types de réflexions qu'à une réflexion sur les représentations, sur justement les altérités souffrantes, sur ces vies qui comptent et sur ces vies qui ne comptent pas, et sur une réflexion sur la vulnérabilité et la précarité qui finalement ne fait que manifester là aussi nos impuissances et qui ne fait que redoubler nos indifférences. Et je rappelle ce texte assez intéressant, très fort en fait, de Susan Sontag, Devant la douleur de l'autre, où elle rappelle constamment ce qu'il y a parfois d'un peu naïf justement dans les formes de plus jamais ça ou d'attention à l'altérité qui souffre dans un autre monde, alors que finalement, et là je reviens sur ce que tu disais Rouya tout à l'heure, alors que finalement il s'agit de s'interroger politiquement sur le prix de nos libertés, sur qu'est-ce qui fait que nous sommes libres ici, et est-ce que ce type de liberté là n'implique pas à un moment des formes de violence exercées sur d'autres. Donc voilà en gros quelles sont les réflexions qui m'ont amené à ça. Alors de manière un petit peu ouverte, puisqu'il s'agissait un peu d'une discussion, je voulais revenir justement sur la question de l'étranger. Alors je dois vous avouer que d'emblée cette question-là, et vous me pardonnerez immédiatement le parti pris, je ne la saisis que de manière politique et juridique. C'est-à-dire que là aussi, pour un ensemble de raisons qui sont liées à des formes de déception, une forme de moralisation et d'humanitarisme excessif qu'on peut retrouver dans certaines formes de discours philosophiques, je préfère d'emblée me questionner sur ce que sont des nationaux ou ce que sont des étrangers. Et il est vrai que cette réflexion a ceci d'extrêmement, il me semble, assez pertinent, parce qu'elle permet aussi d'interroger en fait ce que l'auteur Wendy Brown nomme le désir frénétique de mur en fait dans nos démocraties libérales. Et il y va effectivement d'une manière de se saisir de la notion d'étranger dans sa dimension politique, c'est-à-dire dans son rapport à la souveraineté de l'État. Comment un État fabrique des nationaux et fabrique des étrangers, comment un État donc se donne le droit de créer un cadre juridique, le droit à la nationalité, qui produit des nationaux, en fait, c'est-à-dire des individus qui possèdent une nationalité auquel le pays auquel ils sont, dans lequel ils sont inscrits leur donne un ensemble de droits référents à cette nationalité, et de fait, sur le plan, comment dirais-je, politique, la catégorie d'étranger est emblée pensée sur un mode négatif. L'étranger, sur le plan politique et juridique, c'est celui qui n'a pas cet ensemble de droits politiques et qui ne peut pas donc répondre à ces... à un ensemble de possibilités, de droits de circulation, de droits d'entrer aux de franchir des frontières, le droit de s'installer, etc. Il me semble ici que là aussi, sans vouloir comment dirais-je, politisé à outrance ce propos. Toutes les réflexions qui ont été portées à la suite des attentats qui sont tenus le 13 novembre 2015 au Bataclan, toutes les réflexions donc, qui ont porté justement sur la déchéance de la nationalité, montraient à quel point finalement la question de l'étranger comme telle est une notion avant tout éminemment politique, qui pose d'emblée le fait qu'il existe quelque chose comme, et là je bergsoniserai un petit peu mon propos, qui pose le fait que d'emblée, celui qui est désigné comme étranger, politiquement, est considéré virtuellement comme un ennemi. Et ce qu'avait d'assez singulier et d'assez violent, en fait, les débats, je pense, sur la déchéance de nationalité, c'est qu'il s'agissait d'étendre le principe de la déchéance de nationalité aux binationaux naturalisés, mais aussi aux binationaux nés en France. Ce qui signifiait en fait que d'emblée, au-delà de la réflexion politique, au-delà de la réflexion juridique, la catégorie de binationalité était recouverte d'une axiologie, comment dirais-je, culturelle, d'emblée presque racialisée, invitant à dire que le binational peut être d'emblée considéré comme un être de soupçon, en fait, qui porte en lui un ensemble d'éléments disruptifs, portant ou détruisant, en quelque sorte, la cohésion nationale. Donc voilà, en quelque sorte, comment la catégorie d'étrangers se construit sur le plan politique. Voilà comment elle amène, d'une certaine manière, à penser un code de la nationalité, comment elle amène aussi à penser quelque chose comme un droit des étrangers, et comment on voit aussi que cette politisation nécessaire de la catégorie d'étrangers est à l'œuvre aussi dans un ensemble de politiques qui vont instrumentaliser cette catégorie et produire une inflation, des inflations juridiques. Et depuis les années 80, donc on a eu 30 ans, je ne suis pas juriste, mais on a eu 30 ans d'histoire du droit des étrangers en France, où chacun des nouveaux amendements, bon alors les lois Pasqua, on les connaît toutes, les lois Quilles, les reconfigurations du droit à l'immigration sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en fait, montraient à quel point il y avait une instrumentalisation, là aussi, complètement politique de la notion d'étranger, et comment, au-delà de toute la sphère juridique, elle devient un enjeu, finalement, pour satisfaire ou non un ensemble les opinions publiques dans nos démocraties libérales et satisfaire peut-être pour un ensemble de raisons ce désir frénétique de mur en fait qui est à l'œuvre et qui s'exprime dans nos démocraties. Un autre exemple en fait de ce désir frénétique. Justement, sur ces questions politiques, la question tout d'abord de la construction de l'étranger comme catégorie politique, à la fois liée à la question, au problème de la souveraineté de l'État, et ensuite liée aussi à un ensemble d'instrumentalisation politique de la question des étrangers pour satisfaire des agendas politiques dans nos démocraties, il était intéressant de se demander, mais bon, que peut finalement la philosophie sur le plan non pas moral, sur le plan non pas immédiatement renvoyant à une fois des formes de création conceptuelle, mais sur un plan directement politique. Et là aussi, quelque chose comme une forme de déception liée au langage et au type de création portée, ou en tout cas par la question de l'étranger, est apparue, et notamment au moment de la situation de la destruction de Calais, donc en novembre dernier. Avec une amie philosophe, Valérie Gérard, on a été amené à construire une réflexion politique sur ce qui s'était passé à Calais et sur le traitement langagier, justement, de la question des migrants, c'est-à-dire des étrangers, à Calais. Il était extrêmement intéressant de voir comment, dans les langages politiques, dans les langages médiatiques, là aussi, la question des migrants était traitée, et comment, en fait, le type d'outils conceptuels qui étaient produits, là aussi, par un ensemble de réflexions ou de productions philosophiques réinvestissant et rechargeant à outrance, là aussi, des idées soit d'accueil, qui sont nécessaires, mais ou d'hospitalité, en fait, mais en un sens éthique, finalement, manifestant plus une forme d'impuissance réelle et effective à agir sur une situation politique. Alors il y avait je ne sais pas si vous rappelez ces discours, il y avait un discours, le discours de la préfète du Nord, qui avait commencé justement, je me rappelle cette séquence sur BFM TV, qui avait explicité ce qui se passait à Calais, et qui avait montré comment les feux, les incendies qui avaient été mis en place, qui avaient été mis à Calais en fait, étaient le fait donc de ces populations migrantes, qui, populations nomades, avaient l'habitude, en se déplaçant, de brûler ou de détruire leurs habitats. Donc la première chose, première forme d'analyse ou de mobilisation de la catégorie d'étrangers comme cet être nomade qui, là encore, est entièrement ethnologisée, en fait. Et il s'agit d'expliquer, à partir d'une forme d'idiosyncrasie culturelle, les raisons ou les formes qu'ont pu prendre les politiques menées à Calais. Deuxième type de discours qu'on pouvait aussi trouver sur la catégorie d'étrangers dans ce qui s'est produit à Calais, donc là, c'est la figure paradigmatique du sujet victimaire, c'est-à-dire du sujet fondamentalement dépolitisé, qui ne vit que sur le mode de l'assistance. Être entièrement vulnérable, cela signifie qu'il faut pouvoir déplacer ces individus, les mettre dans des endroits où ils seront mieux. Bon, on a vu la situation des migrants venus de Calais à Paris, on a tout à fait vu qu'il ne s'agissait pas que ce n'était pas nécessairement mieux, en fait, mais il s'agissait là aussi de produire un discours fondamentalement dépolitisé. Et même les termes qui étaient employés, on a beaucoup parlé du démantèlement de Calais, mais on démantèle des places fortes, et l'usage de ces termes guerriers montrait à quel point, en fait, la situation, là aussi, ou la manière dont était mobilisée la catégorie d'étrangers, qu'a-t-on fait, donc, de cette catégorie d'étrangers, consistait, finalement, à déréaliser, là encore, des situations concrètes et matérielles d'exil qui expliquait les conditions pour lesquelles ces individus s'étaient déplacés. Et comment la philosophie, en tout cas des expressions du discours philosophique, ont-elles pu répondre à ces différentes expressions, à ces différents traitements langagiers des étrangers qu'on pouvait trouver dans le discours médiatique et dans certains discours politiques? Il me semble aussi qu'il y avait là quelque chose de l'ordre de la déception, puisque finalement, dans un ensemble de discours politiques, philosophiques, nourris de Arendt, nourri de Derrida, on a pu voir que un contre-discours qui visait finalement à sur-héroïser la figure de l'étranger, à en faire la figure du migrant, à en faire la figure paradigmatique d'une nouvelle cosmopolitique, à en faire la figure héroïsée de nouvelles formes du partage du monde, à en faire là aussi une figure, nous inquiétant nous-mêmes dans nos démocraties libérales concernant notre manière toujours de nous rapporter à autrui, de faire accueil et donc d'être toujours dans cette position finalement consistant à nous donner de nouveaux émois, théoriques, philosophiques, mais cette manière d'objectiver philosophiquement l'étranger, en fait, ne faisait que ramener ou reproduire, la figure du migrant ou de l'étranger comme une espèce de nouvelle occasion pour la philosophie de produire un discours esthétique sur l'altérité. Alors, vous me trouverez peut-être un peu provocatrice, j'en conviens, mais à partir de cela, il m'intéressait de me dire, qu'est-ce qu'avec tous ces éléments philosophiques, avec cette manière qu'on a de thématiser l'étranger, cette manière qu'on a de déréaliser les conditions matérielles de vie des migrants, des étrangers, qu'est-ce que je peux faire, moi, finalement, philosophiquement, pour traiter une situation qui me paraissait extrêmement compliquée au vu des multiples enjeux qu'elle porte, à savoir celle de ce qui se produit actuellement en République démocratique du Congo. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu étrange, ça circule un peu dans tous les sens. Vous nous parlez d'abord de la question de la catégorie d'étrangers sur le plan politique, vous revenez au problème de la déchéance de nationalité, ensuite à Calais. Que vient faire le Congo là-dedans? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que je suis très engagée sur ces questions, étant, là je vais me retéritorialiser, donc pas du tout devenir étrangère, mais vraiment m'ancrer et me sédentariser dans une situation, je suis afro-descendante et donc congolaise. Et mon premier questionnement relatif à la question au problème du Congo, à la suite donc du génocide des Tutsis au Rwanda, c'était de me dire, mais il y a des vies qui comptent, il y a des vies qui ne comptent pas. Et précisément à produire, moi aussi, ce discours sur les politiques de la représentation, consistant à dire, il y a véritablement une humanité défaite au fin fond, qui se trouve en général dans les Suds, en fait, qui n'est pas vue. Et la question qui me posait, mais quel type de praxis politique produit-on en mobilisant ce type de discours? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque précisément, comme ces vies ne comptent pas, ces vies étrangères ne comptent pas, quel peut être l'intérêt? Produire des discours artistiques, produire de nouvelles œuvres, mettre en scène nouvellement des vies mourantes devant quel type de spectateurs et quel type de mouvement ça va produire? Donc en tout cas, il ne me paraissait pas intéressant de réfléchir sur ce qui s'était produit après le génocide des Tutsis, en mobilisant une réflexion sur la politique des représentations. Et le deuxième point qui permet de montrer la difficulté de réfléchir à ces problèmes, c'est que une des perspectives qui s'ouvre et au peuple congolais actuellement, c'est la perspective de l'exil, au sens où le pays est tellement, soumis à des formes d'économie de la prédation, à des formes de violence, à des formes d'accaparement des terres, qui ont aussi entraîné la faillite d'un ensemble d'économies de l'humanitaire. Il n'est pas possible pour le peuple congolais de se confronter à autre chose qu'à la perspective de l'exil. Cette perspective de l'exil, elle a des résultats concrets, effectifs, c'est que, en général, non seulement les Congolais ne peuvent pas sortir de leur pays puisque les visas pour sortir de l'étranger ne leur sont pas donnés, et ils sont condamnés, je parle bien de condamnation, les mots ne sont pas forts, à vivre dans un pays, finalement, où l'ensemble des droits auxquels ils pourraient accéder, en vertu de leur nationalité, ne leur sont pas accessibles, précisément en raison des situations de prédation auxquelles ils sont confrontés. Donc de fait, pour moi, j'en reste à une aporie, et la question finalement n'était pas tant celle de que faire de l'étranger, mais une question, je dirais, très clairement matérialiste. On pourra peut-être en saisir tout l'arrière-fond politique, mais c'est pas que faire de l'étranger, mais plutôt que faire dans ces situations finalement où un ensemble d'outils théoriques n'apparaissent pas assez pertinents pour engager finalement ce qui demeure pour moi la seule question pertinente, à savoir celle de la praxis politique. Comment à un moment faire en sorte que les individus, des peuples qui sont rendus étrangers à leur propre pays, au point que la seule perspective qui s'ouvre à eux est la perspective de l'exil, puissent à nouveau redevenir, non pas étrangers, mais je dirais sédentaires. Donc voilà un petit peu le type de questions auxquelles je suis confrontée. Donc c'est un peu ouvert, c'est un ensemble de pistes en fait sur lesquelles je travaille actuellement. Donc je n'ai pas voulu vous proposer de canevas strict et précis en fait. Voilà, je vous remercie.